Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire consacrée cette semaine au canal du Midi. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le chantier du canal. Les travaux de ce canal furent lancés en deux phases, appelées chacune entreprise. La première consiste à relier de Toulouse à Trèbes et le coût de construction était estimé à 3 600 000 livres. La deuxième entreprise de travaux se situera entre Trèbes et l'étang de Thau et son coût de construction est estimé à l'époque à près de 6 millions de livres. Ainsi, qu'un million de livres supplémentaires pour la reprise des travaux du port de Sète, car il ne faut pas oublier justement que le canal du Midi est construit pratiquement en parallèle avec le fameux port de Sète. Dès le départ du chantier, Riquet fait preuve d'imagination et d'innovation. Il fait construire des écluses de forme oblongue, alors que jusqu'ici, les écluses étaient toutes de forme rectangulaire. La forme oblongue permet justement de renforcer le sas de l'écluse. Au fil des années, le chantier avance, mais la santé de Riquet décline. En outre, son caractère et son ego, qui ne cessent d'enfler au fur et à mesure que le chantier avance, provoquent de nombreuses frictions avec les hommes du roi, envoyés par Colbert, qui, de par nature, est inquiet des dépenses et des retards sur le chantier. D'Aguesso, intendant du roi, je vous le rappelle, l'intendant du roi en Languedoc, c'est les yeux et les oreilles du roi, écrit justement une lettre à Colbert sur l'état du chantier et sur le comportement de Pierre-Paul Riquet. Ce qui d'ailleurs en dit long sur l'ambiance du chantier. Jugez-en vous-même, voici ce qu'écrit D'Aguesso au sujet de Riquet. « Quoi qu'il soit bon de le traiter en malade, nous devons nous appliquer à le surveiller afin que son imagination changeante ne nuise pas au chantier. » Plus loin, D'Aguesso attaque plus directement Riquet. « Cet homme a fait comme les parfaits menteurs qui, après avoir avancé 3 ou 4 fois le même mensonge, se le persuade comme vérité. Il s'est dit tant de fois qu'il était l'inventeur du canal et la complaisance que j'ai eue en ma présence de lui laisser dire qu'il s'est finalement persuadé qu'il en était le véritable auteur. Si la charge de D'Aguesso semble rude, elle n'en est pas moins inexacte. Car de fait, Riquet n'est pas hydrauliste. Et c'est bien la coopération avec d'autres ingénieurs, architectes et administrateurs qui ont fait la réussite du chantier. Pour mieux contrôler Riquet, Colbert, toujours aussi méfiant, lui envoie l'ingénieur Foy de Merville, qui épaulera un autre ingénieur déjà en place, Louis-Nicolas de Clerville. Riquet est désormais totalement encadré. Les tensions sur le chantier, dues justement en partie au caractère de Riquet, sont illustrées par un exemple, on va dire parfait, si je puis dire, le tunnel du Malpas. Entre Carcassonne et Béziers, il existe un mont important constitué de tufs et sur lequel a été installé pendant l'Antiquité, connu sous le nom d'Oppidum, dans ses runes, un village celte fortifié. Riquet ne veut pas le contourner, car il juge que les alentours ne sont pas propices au creusement du canal, à cause de la présence, à cette époque, de trop nombreux étangs. Or, Riquet sait que le mont en ses runes a été déjà percé par les moines au Moyen-Âge, afin d'assécher l'étang de Montadis. Il décide donc de creuser un tunnel pour traverser le mont. Cependant, les finances du chantier sont dans un tel état que l'idée de creuser un ouvrage très coûteux risque d'être refusée par les ingénieurs et hommes du roi. Riquet décide alors d'agir en secret. Il enlève discrètement des ouvriers sur le chantier et les fait creuser sur le mont en ses runes le début du tunnel. Mais comme le tuf est une roche friable, une partie de la colline s'effondre, ce qui ne manque pas bien sûr de remarquer Clerville et Lafeuille, et qui bien sûr avertissent Colbert aussitôt. Colbert est furieux et ordonne d'arrêter le chantier. L'entrée est aussitôt bouchée. Mais Riquet ne s'avoue pas vaincu. Il envoie discrètement toujours les mêmes ouvriers, enfin ceux qui ont survécu à l'écroulement, percer le tunnel, mais de l'autre côté de la colline. Finalement, le tunnel est percé et long de 170 mètres. Riquet a réussi. Cependant, sa victoire ne sera que de courte durée puisque Pierre-Paul Riquet meurt de maladie quelques mois plus tard. Son inventeur ne verra donc pas la fin du canal. C'est son fils Mathias qui va continuer son œuvre. Toujours encadré par les hommes du roi, en mai 1681, le canal royal du Languedoc est inauguré ce que Corneille célèbre avec ses vers en parlant du roi de France. France, ton grand roi parle et ses rochers se fendent. La terre ouvre son sein. Les plus hauts monts descendent pour le faire voir, tout puissant sur la terre et sur les mers. Avant l'inauguration officielle, D'Aguesseau, La Feuille, le père Mourgue, un jésuite toulousain fin connaisseur de la chose scientifique, sans oublier les deux fils Riquet, font une inspection du contrôle du canal à sec. Puis une fois la mise en eau validée, c'est à partir de Castelnaudary que la commission de contrôle est rejointe par le cardinal de Bonzi, qui veut être le premier à utiliser le canal du Midi. C'est normal, puisqu'il est le président né des États du Languedoc. C'est alors une véritable armada de 25 barques, avec en tête la barque du cardinal, construite en forme de galère. Pour accompagner le cardinal, il y avait des violons, des hautbois et des trompettes. La seconde barque était réservée aux domestiques du cardinal. Les autres étaient occupées par des marchandises et les ingénieurs. Une fois que la petite armada fluviale est arrivée à Béziers, des festivités sont organisées. Puis le cardinal et sa suite quittent le convoi. D'Aguesseau, quant à lui, avec, bien sûr, le reste de l'équipage, continue le voyage jusqu'à son terminus, c'est-à-dire 7.
Abonnez-vous à notre newsletter sur radioalliance+.fr.